Le message qui va suivre vous est présenté par l'Église, la Maison du Bâtisseur, avec pour orateur Luc Ondiaz, président fondateur et pasteur principal. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez richement édifié en Christ. Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter par téléphone au 04 65 60 56, par mail en nous écrivant à contact@lamaisondubâtisseur.com ou en vous rendant sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Nous vous souhaitons une agréable écoute. Que Dieu vous bénisse.
On va rentrer dans la parole. On va partager une parole aujourd'hui. Nous sommes toujours dans notre thème de l'année intitulé « La conquête des promesses ». À la conquête des promesses. Est-ce qu'on peut dire avec moi « à la conquête des promesses » ? On a passé pratiquement 2 mois à enseigner sur ce thème-là, sur ce que c'était l'importance de se préparer pour entrer en possession des promesses de Dieu pour notre vie. Et ce sujet va nous amener dans différentes thématiques, dans différents sujets, et on a beaucoup de choses à partager. La Bible nous dit que la parole de Dieu que nous tenons dans nos mains est une alliance. C'est dans ce livre-là que Dieu a mis toutes les promesses qui nous concernent. Et je prends souvent le temps de nous dire que les promesses de Dieu sont disponibles. Les promesses de Dieu pour nous sont disponibles. Quel que soit l'aspect de nos vies, quel que soit le domaine, que ce soit spirituel, familial, financier, quel que soit le domaine, les promesses de Dieu sont disponibles. Il nous manque juste la connaissance des clés, la connaissance de la parole, la connaissance de notre héritage pour entrer en possession de ces promesses. Amen. Et c'est dans cette lancée-là que l'on va rester toute l'année. Il y a beaucoup de choses à dire parce que c'est un thème qui est extrêmement large. Et là, maintenant que nous sommes, on va dire, sortis du temps de préparation qui a été très très riche en paroles, j'ai envie de dire qu'on est maintenant dans le temps de la conquête. Vous n'avez pas remarqué qu'il y a beaucoup de challenges et de défis en ce moment à relever? Va falloir que tu t'accroches. Il y en a, ils ont les challenges financiers. Il y en a, ils ont les challenges familiaux. Il y en a, ils ont des défis, je ne sais pas. Mais là, nous sommes en plein dans l'année. Vous n'avez pas aussi remarqué que le mois de mars, nous en sommes déjà à la moitié. L'année passe très vite. Hein. Ah ouais, elle passe très très vite. Donc, si on ne prend pas conscience qu'il faut travailler pour pouvoir entrer en possession de ce que Christ a pour nous, on risque de voir le temps passer devant nous sans s'en rendre compte. Amen. Et c'est pour cela que nous devons être toujours conscients de ce que Christ attend de nous. La semaine dernière, on a ouvert un nouveau volet que l'on a intitulé « La priorité du royaume ». Est-ce qu'on peut dire avec moi « La priorité du royaume » ? Lorsque nous, le mois dernier, j'avais apporté un enseignement que j'avais intitulé « Acquérir la mentalité de conquête », où on avait dit beaucoup de choses, où on avait dit qu'il est important d'avoir la mentalité de roi. Et en quelques mots, si je peux le résumer ainsi, c'est que Dieu, lorsque nous venons à Christ, nous envoie une personne très importante qui vient s'installer en nous, dans nos cœurs. Cette personne, c'est la personne du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, on l'a appelé le tuteur royal. Pourquoi ? Parce que lorsque Dieu entre dans notre vie, lorsque nous entrons en contact avec le Père et que le Saint-Esprit nous ramène à la vie, que nous expérimentons ce qu'on appelle la nouvelle naissance, nous avons le Saint-Esprit qui vient en nous et le Saint-Esprit en nous commence à faire un travail de rééducation royale, si je peux dire ça ainsi. Et Paul nous dit dans le livre de Romains au chapitre 12, verset 2, « Ne vous laissez pas conformer par ce siècle, par ce monde, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre intelligence. » Et ça, c'est le Saint-Esprit qui fait ce travail-là. C'est le Saint-Esprit qui commence à faire ce travail de rééducation royale pour qu'on commence à penser comme Dieu. Ésaïe 55, Dieu nous dit « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix et mes pensées sont élevées au-dessus de vos voix et de vos pensées. » Donc Dieu ne pense pas comme nous. Dieu pense différemment de nous. Et nous, dans notre marche chrétienne, dans notre marche avec Christ, on doit toujours chercher à aligner notre manière de penser à celle de Dieu. Amen. Toujours. Et très souvent, lorsque l'on voit certaines situations qui surviennent dans nos vies, on ne comprend pas. Et on dit, mais Dieu, pourquoi? Mais au lieu de dire pourquoi, il faut plutôt aller dans la présence de Dieu et lui demander, mais qu'est-ce que tu essaies de me montrer? Qu'est-ce que tu essaies de m'enseigner? Et comment dois-je prendre cette situation? Comment dois-je penser? Dieu est roi. Est-ce qu'on peut dire avec moi, Dieu est roi? Dieu est roi. Dieu est roi. Et lorsque Jésus-Christ est venu, durant 3 ans de ministère sur terre avant qu'il parte, Jésus-Christ n'a pas cessé de parler d'une chose, le royaume. C'est pour cela que nous allons souvent revenir sur l'enseignement concernant le royaume. On entend beaucoup d'enseignements. On entend beaucoup d'enseignements prophétiques. On entend beaucoup d'enseignements sur tout un tas de sujets dans l'Église. Et on entend de bons enseignements. Des enseignements qui édifient. Des enseignements qui nous font du bien. Mais il y a un enseignement qui change et qui transforme les vies, c'est l'enseignement du royaume. Amen. C'est cet enseignement-là que Satan ne voudra surtout pas que tu entendes. Parce que lorsque l'on commence à enseigner le royaume à l'Église, Satan sait que là, il y a une Église où on est en train de former des rois, des gens qui sont appelés à devenir dangereux pour moi, des gens qui sont appelés à se lever et à prendre possession des territoires, à conquérir cette génération, à faire des choses pour l'avancement du royaume. Et le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, lorsqu'il entre dans nos vies, il commence à faire cette rééducation-là en nous. Et l'enseignement du royaume, qui est un enseignement que l'on n'entend pas beaucoup dans l'Église, souvent quand on donne cet enseignement-là, les gens, en général, ils sont un peu... ils ne sont pas indifférents. Mais c'est tellement particulier comme enseignement que ce n'est pas toujours facile à saisir. Mais c'est l'enseignement qu'il faut donner. Avant de parler du mariage, on parlera du mariage. Mais il faut d'abord parler du royaume. Avant de parler d'argent, on parlera du royaume. Avant de parler business, on parlera du royaume. Avant de parler guérison, maladie, etc., on parlera du royaume. La Bible nous dit aussi dans le premier chapitre du livre des Actes que lorsque Jésus-Christ est ressuscité, il est resté 40 jours et 40 nuits à enseigner les choses concernant le royaume. Donc ça nous montre combien il est important d'enseigner sur le royaume. Moi en premier, je vais chercher pour comprendre, parce que j'ai fait des recherches pour ma propre vie. Et j'ai dit, Seigneur, il faut que je comprenne cette chose-là. Il faut que je comprenne pourquoi tu parlais de ça tout le temps. Pourquoi? Parce que nous avons grandi, nous grandissons, nous vivons dans des démocraties, dans des républiques. Et nous avons besoin, le Saint-Esprit a besoin de rééduquer notre système de pensée pour qu'on commence à penser comme Dieu. Amen. Et là, on va toucher encore un autre point. Et aujourd'hui, la semaine dernière, on a parlé d'un point qui s'intitulait « Il ne s'agit pas d'une religion ». Amen. Et là, on va parler aujourd'hui de la mission absolue de Jésus qui est de restaurer notre place et notre autorité dans le royaume. La mission absolue de Jésus, restaurer notre place et notre autorité dans le royaume. La semaine dernière, on a dit qu'il ne s'agissait pas d'une religion. Et juste pour résumer en quelques mots, nous avons dit que tous les systèmes de croyances qui existent dans ce monde, seul celui du royaume est efficace et nous permet de pouvoir prendre conscience de notre identité en Christ. La chose la plus grave que l'on trouve dans l'Église, c'est une crise identitaire. Ce sont des enfants de Dieu qui ne savent pas qui ils sont. Et quand tu ne sais pas qui tu es, tu ne peux pas, tu ne peux pas marcher, tu ne peux pas fonctionner, tu ne peux pas opérer comme Dieu veut que tu opères, parce que tu ne sais pas qui tu es. Et Dieu a besoin de te dire quelle est ton identité. Quelle est ton identité? À la conquête des promesses, durant la saison de la conquête, tu ne pourras pas entrer en possession de ton héritage si tu n'es pas conscient de qui tu es d'abord. Si tu n'es pas conscient de l'alliance que tu as avec Christ. Si tu n'es pas conscient des promesses qui sont détenues dans cette alliance. Si tu n'es pas conscient de ce qu'on appelle les clés du royaume pour pouvoir les utiliser et prendre possession de ce qui t'appartient. Nous avons des défis à relever. Le travail, dans les affaires, au niveau professionnel, maladie. Et ta foi a besoin de grandir. Mais pour que ta foi grandisse, il faut que tu parviennes à la révélation de la connaissance de Christ. Amen. Et lorsque tu parviens à la révélation de la connaissance de Christ, tu prends conscience du qui. Qui es-tu? Qui tu es? Et quand tu sais qui tu es, je t'assure, même ta démarche, elle change. Même ta démarche, elle change. Ta manière de prier change. Ta manière d'adorer change. Ta manière de te rendre à l'église change. Amen. Donc le Saint-Esprit commence par là. Et nous avons également dit que Jésus, lorsqu'il est venu, Jésus-Christ avait une mission à accomplir. Est-ce qu'on peut dire avec moi une mission? Il avait une mission, et cette mission, nous l'avons évoquée la semaine dernière, et nous allons rentrer en profondeur là-dedans. Il avait une mission, il a prêché le royaume, il a enseigné le royaume pendant 3 ans, il a touché tout un tas de points dans cet enseignement-là concernant nos vies, et il nous a nous aussi envoyés en mission. Amen. Il nous a envoyés en mission. Et quand il nous envoie en mission, il dit, allez et prêchez cette bonne nouvelle du royaume à toute la création. Baptisez-les, et celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Voici notre mission. Dans cette mission, il y a tout un tas de choses qui y sont contenues. Et on a dit que la première chose que Jésus-Christ devait faire dans le cadre de sa mission, c'était de réintroduire le royaume. C'est la première chose qu'il devait faire. La deuxième chose, c'était de restaurer la justice et la sainteté au sein de l'humanité. Condition primordiale pour faire venir la personne du Saint-Esprit. C'est la troisième chose la plus importante qu'il devait faire, que le Saint-Esprit vienne. Ensuite, il devait rééduquer notre manière de penser, nous entraîner à comprendre et à fonctionner comme Dieu fonctionne pour pouvoir exercer ce qu'on appelle notre autorité. Aujourd'hui, ce sont des mots dans l'Église qui sont, comment dire, que les chrétiens, pour lesquels les chrétiens ne sont pas habitués. C'est des choses qu'on entend dans l'Église. Mais quand on voit comment les chrétiens vivent, ou quand on entend comment les chrétiens parlent, on se rend compte que c'est beaucoup de choses contenues dans la feuille de route de Jésus, ils ne l'ont pas compris. Et c'est pour cela qu'il faut revenir sur l'enseignement. Mais il faut toujours ne pas oublier le but ultime de Dieu, qui est de faire établir son royaume sur la terre. Établir son royaume sur la terre et ramener le maximum de personnes dans le royaume. Parce que le souci de Dieu, 1 Timothée 2:4, c'est qu'il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance et à la vérité. Amen. C'est la priorité de Dieu, que tous les hommes soient sauvés. Et nous avons terminé avec un point important où Paul nous appelle dans le deuxième livre de Corinthiens, au chapitre 5, verset 17, il nous appelle ambassadeurs. Paul dit que nous sommes des ambassadeurs de Christ. On a un peu détaillé ce que c'était qu'un ambassadeur. Et aujourd'hui, on va aller un peu plus loin. Et on va ouvrir nos Bibles pour ceux qui en ont. Dans le livre de Éphésiens, au chapitre 1, au verset 7. Chapitre 1, au verset 7 du livre d'Éphésiens. Et je vous assure que ce que nous allons partager là pendant ces prochaines minutes, je vous assure, personnellement, quand je lisais ça, quand j'étudiais ça, j'ai dit, ah Seigneur, ça c'est vraiment important. Il faut vraiment qu'on comprenne ça en tant qu'enfant de Dieu. Et ça, il faut l'enseigner à l'Église. Même lorsque les gens ne comprennent pas, il faut rabâcher et rabâcher jusqu'à ce qu'ils comprennent ça. Éphésiens 1, verset 7, il dit, « En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. » Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Amen. Voici l'un des messages les plus importants de la Bible. Alors que c'est un passage que beaucoup d'enfants de Dieu passent très rapidement. Pourquoi ce passage est extrêmement important? Parce que c'est l'un des seuls passages de la Bible où Paul résume en 2-3 phrases tout le plan de Dieu. Et c'est parce que justement, la plupart ont pour habitude de passer par-dessus, comme ils doivent comprendre, alors j'ai pris une autre version, encore plus détaillée, qui nous parle encore plus. Version parole vivante, elle nous dit ceci du même passage, mais elle exprime encore mieux la pensée de Christ. C'est par ce Fils, en parlant de Jésus, et au prix de son sang, que nous avons été libérés de ce qui nous tenait en esclavage. C'est parce que nous sommes un avec lui que nous avons été lavés du péché et toute offense a pu nous être pardonnée généreusement à la même mesure des richesses de sa grâce. Cette grâce, est-ce qu'on peut dire avec moi cette grâce? Il a déversé sur nous à profusion, c'est-à-dire abondamment. Elle a débordé dans nos vies et ouvert nos yeux à la vérité. Sous son influence, l'influence de qui? De cette grâce, se sont épanouies en nous de nouvelles facultés d'intelligence et de compréhension qui nous ont rendus capables de saisir le secret du plan de Dieu. Est-ce qu'on peut dire avec moi le plan de Dieu? Ce plan que de toute éternité, sa bienveillance lui a inspiré, il le portait dans son cœur pour le mettre à exécution au moment opportun. À présent, il nous l'a dévoilé en Christ. Et quel est l'aboutissement final de ce plan? Paul pose ici une question. Quel est l'aboutissement final de ce plan? Voici l'aboutissement final de ce plan. Lorsque les temps seront mûrs pour cela, tout ce qui existe dans le ciel et sur la terre, l'univers visible et invisible sera restauré. Est-ce qu'on peut dire avec moi restauré? Unifié et rassemblé sous le gouvernement du Christ. Tout trouvera sa perfection et son accomplissement en lui. L'histoire de l'humanité sera résumée et achevée en lui. Le cosmos tout entier ne formera plus qu'un corps dont le Christ sera la tête. Amen. C'est un passage fort, hein? Ça, c'est un passage. Ce passage, tu peux rester des jours et des jours à l'étudier, tellement il est profond. Tellement il est profond et tellement il résume la pensée de Christ. Donc, au lire de ce que Paul dit ici, l'objectif principal de Dieu pour nous a toujours été le même. Exercer la domination et l'autorité dans le domaine terrestre sous sa royauté. Exercer le but pour lequel il nous a créés. Car la Bible nous dit dans Genèse 1, au verset 26, « Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine. Soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez et dominez. » Verset 28. Tout est contenu là-dedans. Tout est contenu là-dedans. Le jour où tu nais de nouveau, le jour où tu reviens à Christ, la première chose que tu dois comprendre, c'est ça. C'est ça. Quel est le but pour lequel j'ai été créé et quelle est ma place aujourd'hui? Quelle est la place que j'occupe dans le plan de Dieu aujourd'hui? Et la pensée de Dieu n'a jamais changé. Et parce que la pensée de Dieu n'a jamais changé, c'est pour cela qu'il faut enseigner cela. C'est pour cela qu'il faut que les enfants de Dieu comprennent la parole. La raison pour laquelle la plupart des enfants de Dieu ne perdent pas à la dimension d'autorité et de surnaturel à laquelle ils doivent opérer, c'est parce qu'ils n'ont pas compris ces choses. Ils n'ont pas compris leur autorité, ils n'ont pas compris leur identité, ils n'ont pas compris la place qu'ils ont aux yeux de Dieu. Ils n'ont pas compris. Et lorsque la maladie, par exemple, vient et frappe à ta porte, tu es esclave. Tu ne sais pas qui tu es et tu n'es pas capable de vaincre cette maladie. Si Dieu permet que la maladie t'emporte, gloire à son nom. Mais si Dieu dit que ce n'est pas ton temps, il est de ta responsabilité de te tenir debout et de dire, je refuse de partir. Parce que Jésus-Christ a dit une phrase qui a choqué les gens à son époque. Il a dit, personne ne peut me tuer dans le livre de Jean. C'est fort. Quand je lis des passages comme ça, j'ai dit, mais ah, je m'arrête et je gratte la tête. J'ai dit, comment quelqu'un, un être humain, comme lui peut dire, personne ne peut me tuer. Il dit, je donne ma vie et je la reprends. Quand je veux. Et Christ est le modèle parfait par excellence pour nous. Et nous aussi, nous devons penser comme ça. Nous aussi, nous devons parler comme ça. Et lorsque tu parles comme ça devant les non-croyants, tu es pris pour un fou. On dit que tu es un illuminé. On dit que tu as perdu la tête. Non, tu n'as pas perdu la tête. Tu es simplement un extraterrestre. Tu n'es pas de ce monde. Tu es dans le monde, mais tu n'es pas de ce monde. Et la pensée de Dieu n'a jamais changé. Et Dieu, lorsque Adam a péché, lorsque Adam l'a trahi, lorsque Adam a perdu la place qu'il avait devant lui, Dieu n'a pas été surpris. Dieu n'a pas été surpris. Pourquoi? Parce que le plan dont parle Paul ici, ce plan-là, que l'on appelle le plan du salut, est-ce qu'on peut dire avec moi le salut? Ce plan-là que l'on appelle le plan du salut est un plan que Dieu n'a pas, comment dire, que Dieu n'a pas mis en place lorsque Jésus-Christ est venu, contrairement à ce que beaucoup de gens croient. Et ce plan, Dieu ne l'a pas activé non plus en Éden avec Adam lorsqu'il a péché. Non. Ce plan, Dieu l'a mis en place et l'a activé avant la fondation du monde lorsque l'agneau de Dieu avait été immolé pour nous. Amen. Et l'humanité avait déjà été rachetée lorsque l'agneau de Dieu avait été immolé. Lorsque Christ est venu mourir à la croix, ce n'était qu'une confirmation de ce qui avait déjà été accompli dans le spirituel. Alléluia. Donc le plan du salut, qu'est-ce que c'est? Le plan du salut, pour qu'on comprenne, si je peux dire ça ainsi en un mot, c'est un programme de restauration mis en place par Dieu pour nous redonner la position initiale que nous avions perdue au départ à cause de Adam. Je vais nous donner une image. Vous prenez un livre qui est sur une table. Ce livre tombe de la table. Ce livre est à terre. Ce livre ne peut pas de lui-même quitter le sol et revenir sur la table. Il faut que quelqu'un se baisse, le ramasse et le mette sur la table. On est d'accord, non? C'est exactement ce que Dieu a fait. Lorsque l'on parle de la chute, Adam était tombé d'une place qu'il avait perdue et Dieu a dû se baisser, le prendre par lui-même et le remettre à la place. Amen. C'est ce que Dieu a fait. L'homme ne pouvait pas de lui-même revenir à la place à laquelle Dieu l'avait placé lorsqu'il l'avait créé au préalable. L'homme était rentré dans une position difficile, impossible à résoudre. Je ne vais pas rentrer en détail sur ce point-là, ça va être long. Mais Dieu a dû de lui-même se baisser, prendre l'homme qui était tombé et le replacer. Et comment Dieu a-t-il fait cela? Par la personne de Jésus-Christ. Amen. Et si Jésus-Christ n'avait pas fait cela, alors on ne serait pas là aujourd'hui. On avance. Donc, tout est parti d'un plan. Nous faisons partie d'un plan. Et toute la création fait partie de ce plan. Ce plan ne concerne pas juste nous. Ce plan concerne aussi toute la nature, toute la création. C'est pour cela que Paul, dans notre passage de tout à l'heure, pose la question, et quel est l'aboutissement final de ce plan? Il dit, lorsque les temps seront mûrs pour cela, tout ce qui existe dans le ciel et sur la terre. Il dit, l'univers visible et invisible sera restauré, unifié et rassemblé sous le gouvernement du Christ. Tout trouvera sa perfection et son accomplissement en lui. Il rajoute que l'histoire de l'humanité sera résumée et achevée en lui. Le cosmos tout entier ne formera plus qu'un corps avec Christ. Donc, Christ, le corps de Christ, je relis, le cosmos tout entier ne formera plus qu'un corps dont le Christ sera la tête. Donc même le cosmos fait partie du corps de Christ. Même la nature fait partie du corps de Christ. Et c'est pour cela que la Bible nous dit dans Romains 8 au verset 20 que toute la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Parce que lorsque les fils vont se manifester, ils vont tout remettre à plat. Amen. On avance. Donc, pour continuer dans notre introduction, Adam, comment dire, n'était pas une surprise pour Dieu, ce qu'il avait fait. Adam n'était pas la touche finale de la création de Dieu. Adam n'était qu'un essai. Adam n'était qu'un essai ou encore un prototype. C'est pour cela que Dieu n'a pas été surpris par la chute de Adam. Et c'est pour cela que lorsque le plan qui était déjà en marche, Dieu savait que ce plan, Dieu savait que même si Adam péchait, ça avait été prévu. Lorsqu'on avait mis en place le projet, on avait déjà prévu qu'il tombe. On avait déjà prévu qu'il mente. On avait déjà prévu qu'il trahisse. Ça faisait partie du plan. Et Christ vint et nous racheta. La Bible nous dit que, dans le livre de Galates au chapitre 4, nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Ça, c'est un fait établi, ce n'est pas une promesse. Lequel, c'est qu'aujourd'hui, à cause de ce que Christ a fait depuis qu'il est venu, à cause du fait que nous avons été rétablis à notre position initiale, aujourd'hui nous sommes fils. Et parce que nous sommes fils, nous avons une place très privilégiée au regard de Dieu. Et le jour où on comprend cette place, cette position, ce privilège que nous avons aux yeux de Dieu, on est comme ma fille. On est comme ma fille qui, même lorsque je dis personne ne rentre dans la chambre, je travaille, elle sans cogner, elle rentre et elle vient et elle se jette sur moi. Quand elle se jette sur moi, je ne peux pas crier, je ne peux pas me fâcher parce que tout simplement, elle est dans l'intimité du Père. la toute première chose, on l'a dit ici il y a 3 semaines, la toute première chose qui caractérise le Fils, c'est qu'il est dans l'intimité du Père. C'est qu'il est dans l'intimité du Père. Et cette intimité, nous l'avions perdue. Et en Christ, cette intimité, on la retrouve. Amen. On la retrouve. Donc le jour où on comprend cela, le jour où on comprend le plan divin, le jour où on comprend ce que Dieu a fait, le rétablissement de nos places à ses yeux, devant lui, le jour où on comprend ça, je vous assure, notre manière de penser, notre manière de voir le monde, notre manière de prier, notre manière de raisonner, notre manière de vivre, change complètement. Elle change complètement. Amen. Et telle était la mission de Jésus. Venir nous restaurer à notre place. Venir nous rétablir à notre place. Et tant que tu n'as pas compris cette place, alors, dans la saison de la conquête des promesses, tu n'arriveras pas à rentrer en possession de ton héritage. Tu n'arriveras pas. Parce que les murs de Jéricho se tiendront devant toi. Les murs se tiendront devant toi. Les défis se tiendront devant toi. La vie se tiendra devant toi. Et tu devras te tenir comme David, sachant qui il était, se tenir devant Goliath. Et il dit à Goliath, toi tu viens vers moi avec des armes. Mais moi je viens vers toi au nom de l'Éternel des armées. Et quand tu te tiens devant les défis de la vie, quand tu te tiens devant les circonstances qui ne te sont pas favorables, il faut que tu sois capable, comme David, de dire, je viens au nom de l'Éternel des armées et je prends possession de mon héritage au nom de Jésus-Christ. Si tu parles la prière étant malade et Dieu dit, ce n'est pas ton temps, je ne t'ai pas rappelé, alors combat et chasse cette maladie. Tu te tiens devant la maladie, quel que soit son nom, que ce soit le cancer, que ce soit le sida, que ce soit, je ne sais pas, quel que soit le nom de cette maladie, tu te lèves et tu dis, je refuse de partir parce que personne ne peut me tuer si ce n'est moi qui en donne mon autorisation en Christ. Voilà comment un enfant de Dieu doit prier. Amen. Ça, c'est l'autorité. Mais si tu n'as pas cette manière de penser, comment tu vas prier comme ça? Comment? Et Jésus-Christ devait nous rétablir à cette place. Parce que tant que nous n'avons pas cette place, cette position, on ne peut pas y arriver. Chaque personne, chacun d'entre nous, quand nous venons au monde, nous venons avec cette mission-là que Jésus-Christ nous a confiée. Christ a fait ce qu'il avait à faire. Il est mort, il est ressuscité et il nous a dit maintenant, vous qui avez reçu Christ, vous qui me connaissez, vous qui savez maintenant qui vous êtes en tant qu'enfant de Dieu, votre rôle maintenant, c'est d'aller, vous en tant qu'Église, et de dire aux gens qui sont dehors qu'aujourd'hui, le royaume de Dieu est arrivé et qu'aujourd'hui, nous, les êtres humains, on peut retrouver notre place initiale, notre intimité que nous avions perdue avec le Père. On peut retrouver cette intimité. On peut vivre heureux. On peut être en Christ et être épanoui. On peut être en Christ et prospérer. On peut être en Christ et progresser. On peut être en Christ et vivre tout simplement ce qu'on appelle le bonheur. Ce que tous les hommes cherchent. Ce que tous les hommes cherchent. L'un de mes films préférés s'appelle « À la recherche du bonheur » avec un acteur qu'on appelle Will Smith. Il se bat pour trouver du travail. Et dans le film, il est malheureux. Il est malheureux tout au long du film parce qu'il ne trouve pas du travail. Et je regardais le film, qui est un très bon film, mais je dis vraiment, si c'est juste parce que je ne trouve pas du travail que je dois être malheureux comme lui, alors là, ça ne sert à rien que je sois en Christ. Travail ou pas travail, argent ou pas travail, difficulté ou pas difficulté, en Christ, j'ai la paix et la joie en Christ. Amen. Car le royaume de Dieu, c'est l'amour, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Amen. Donc nous avons cette mission et c'est pour cela que Paul interpelle l'Église. Dans le livre de Corinthiens, il interpelle les chrétiens et il leur dit, vous êtes des ambassadeurs. Vous avez cette mission-là. Le problème, c'est que vous êtes trop dans vos disputes, dans vos jalousies. Moi, je suis de Paul, moi, je suis d'Apollos. Vous êtes trop dans ces choses. Vous êtes trop dans les rudiments de ce monde. Vous êtes trop dans les futilités. Vous êtes trop dans les convoitises de ce monde. Et vous avez oublié l'essentiel. La raison pour laquelle Dieu ne détruit pas ce monde, c'est parce que tout simplement, l'Église n'a pas encore accompli sa mission. Un jour, quelqu'un m'a demandé, mais Jésus-Christ revient quand ? On ne sait pas quand est-ce qu'il revient. Je lui ai répondu, est-ce que tu sais qu'on sait quand est-ce que Jésus-Christ revient? Il a dit, ah bon? Mais bien sûr qu'on sait quand est-ce que Jésus-Christ revient. Il l'a dit lui-même quand est-ce qu'il allait revenir. Ah bon? Et il a dit à quel moment? Eh bien, il a dit dans le livre de Matthieu, chapitre 24, verset 14, lorsqu'il dit, lorsque cette bonne nouvelle du royaume de Dieu aura été prêchée à toute la création, alors viendra la fin. Lorsque cette bonne nouvelle du royaume aura été prêchée à toute la création, alors viendra la fin. Mais tant que cette bonne nouvelle du royaume n'a pas été prêchée, n'a pas été enseignée à toute la création, alors ne viendra pas la fin. Et aujourd'hui, il suffit juste de regarder autour de nous, de regarder le monde, pour se rendre compte que l'Église ne fait pas son travail. L'Église ne fait pas son travail. Aujourd'hui, il y a plus d'un milliard d'Africains. Combien n'ont pas encore entendu la bonne nouvelle du royaume? Aujourd'hui, en Chine, où il y a des animistes, des bouddhistes, etc., combien n'ont pas entendu la bonne nouvelle du royaume? Aujourd'hui, vous allez en France, où j'étais. Combien de gens n'ont jamais entendu la bonne nouvelle du royaume? Beaucoup de gens sont déjà allés dans des églises, catholiques, protestants, c'est tout ce qu'on veut. Mais lorsqu'on emmène l'enseignement du royaume, des gens qui sont dans l'église depuis des années disent « Ah, mais ça là, j'ai jamais entendu ça. » Il est dans l'église depuis je ne sais pas combien de temps, mais pourtant il n'a jamais entendu ça. Tu l'enseignes avec la Bible, mais il te dit « Ça, j'ai jamais entendu ça. » La bonne nouvelle du royaume. Est-ce qu'on peut dire avec moi « Le royaume » ? Amen. Et Jésus-Christ avait une mission. Et cette mission, il nous l'a donnée. Cette mission, il nous l'a donnée. Et cette feuille de route, cette feuille de mission que lui-même avait et qu'il a accomplie, il nous l'a transférée. Il y a des choses telles que le royaume, la restauration, le pardon des péchés, tout ça, ça c'était son rôle à lui. Nous, notre rôle, c'est d'annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux et de gagner des âmes à Christ. Et l'Église, par toutes sortes de manières, par toutes sortes de sagesse et de stratégie, notre travail en tant qu'Église, en tant que corps de Christ, c'est de travailler pour gagner les âmes et gagner les nations à Christ. Et pas autre chose. Pas autre chose. Et la question que j'ai envie de nous poser, c'est quel rôle, ou de te poser, quel rôle joues-tu? Aujourd'hui, est-ce que tu peux te tenir debout et dire, je joue un rôle majeur et effectif dans l'œuvre du Seigneur, dans l'avancement du royaume? Est-ce que tu peux dire que tu joues ce rôle-là? Quand on regarde à la vie, est-ce que tu peux te dire, tu peux dire aujourd'hui, je peux dire que demain quand je partirai de la terre, je pourrais dire que j'ai travaillé, Seigneur, pour l'avancement de ton œuvre. J'ai travaillé. Et l'un des meilleurs moyens d'avoir la faveur de Dieu sur sa vie, pour ne pas enseigner sur la faveur, mais l'un des meilleurs moyens d'avoir la faveur de Dieu sur sa vie, c'est de travailler à l'œuvre de l'avancement de son royaume. Ah ouais. Les gens qui travaillent pour l'avancement du royaume, les gens qui sont investis dans une œuvre, les gens qui sont investis dans un travail profond pour évangéliser, pour prêcher, pour amener l'évangile aux non-croyants, ces gens-là, je vous assure, ils ont une place très particulière aux yeux de Dieu. Hein. Ah oui, ils ont une place très, très particulière. Et Dieu en prend soin. Pour rappel, la mission de Jésus, c'était 1. Réintroduire le royaume de Dieu sur terre. 2. Restaurer la justice. 3. Restaurer le Saint-Esprit en l'homme. 4. Rééduquer notre système de pensée par le tuteur royal, le Saint-Esprit. 5. Restaurer le règne du royaume sur terre. Et on va en discuter un tout petit peu de ces points-là. Et on va finir par ça. Le premier volet qu'il faut comprendre, avant de nous lever et avant d'aller, la première chose que Jésus-Christ devait faire, c'était de réintroduire le royaume de Dieu sur terre. La toute première chose. Dans toute entreprise, dans toute société, dans toute organisation, il doit toujours avoir un objectif principal que tout le monde doit embrasser pour pouvoir marcher dans la même direction. Cet objectif principal, c'est ce qu'on appelle communément une déclaration de mission. Amen. Ce qu'on appelle communément une déclaration de mission. Et cette déclaration de mission, elle peut être écrite ou bien orale ou informelle. Mais en tout cas, c'est un accord que le visionnaire de l'organisation et les membres de l'organisation ont ensemble et décident de travailler ensemble pour l'avancement de l'organisation. Amen. Et c'est cette déclaration de mission-là qui garde tout le monde focalisé. C'est cette déclaration de mission, cet objectif principal-là que tout le monde poursuit, qui va faire que les produits que nous allons sortir au niveau marketing, etc., c'est tout ça qui va, comment dire, c'est tout ça qui va générer tous les produits et tous les fruits de l'entreprise, si je peux m'exprimer ainsi. Et c'est exactement la même chose au niveau spirituel. Christ Jésus, lorsqu'il est venu, il nous donne un aperçu. Il nous dit, Matthieu 4, 17, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous. Et lorsqu'il dit cette parole, lorsqu'il nous donne cette parole, Christ est en train de nous donner une image, comment dire, un aperçu de ce pourquoi il était venu sur terre. De ce pourquoi il était venu sur terre. Donc, la priorité de Christ, c'était non seulement de réintroduire le royaume, mais il fallait qu'il en parle. Si on ne parle pas du royaume, les gens ne peuvent pas être changés. Si on n'enseigne pas le royaume, les gens ne peuvent pas être sauvés. C'est plus facile d'emmener le message du royaume à un non-croyant que de lui dire « Jésus t'aime ». Quand tu dis « Jésus t'aime » à un non-croyant, il dit « Ouais, je sais. Oui, je sais, je n'ai pas besoin que tu me le dises ça. Et je n'ai pas besoin d'aller à l'église pour savoir que Jésus m'aime. » Donc, mais ce n'est pas ça qui va faire que je vais me convertir. Jésus m'aime, s'il est mort à la croix, c'est qu'il m'aimait vraiment. Jésus n'est pas mort seulement pour les croyants, il est mort aussi pour les non-croyants. Donc il m'aime, ça je le sais déjà. Mais, quand tu lui amènes le message du royaume, quand tu commences à lui expliquer et lui enseigner qui il est, Dieu te donne la sagesse et l'instruction pour pouvoir le lui en parler. Je t'assure, il n'est pas réfractaire. Il prend le temps de t'écouter. Je sais de quoi je parle, je le fais souvent. Je le fais souvent. Le non-croyant, quand tu lui parles du message du royaume, il est très souvent intrigué. Très souvent intrigué parce que il n'a jamais entendu l'évangile de cette manière. Quand tu dis à quelqu'un, tu es un roi. Je vous rappelle l'histoire où j'étais dans le bus, assis. Et en face de moi vient s'asseoir un monsieur qui se met à sortir d'un côté une Bible avec écrit dessus Bible des témoins de Jéhovah ou je ne sais pas quoi, ou de Jérusalem, je ne sais plus. Et de l'autre côté, il sort un livre, leur livre très connu qui s'appelle Tour de garde. Et là, il sort ça et commence à lire ça devant moi. Et je lui fais, bonjour monsieur l'ambassadeur. Il fait pardon. Je lui dis, bonjour monsieur l'ambassadeur. Il dit, comment m'avez-vous appelé? Je lui dis, excusez-moi, je vais utiliser un autre mot. Bonjour, Excellence. Et figurez-vous que le monsieur, quand je dis ça, il ne me sourit pas, il se met en colère. Il me dit, vous ne m'appelez surtout pas comme ça. Mais vous vous prenez pour qui? Vous ne m'appelez pas comme ça, monsieur. Je ne suis pas Excellence, il n'y a que Dieu qui est excellent. Je ne suis pas un ambassadeur, il n'y a que... Je lui dis, mais on t'appelle ambassadeur, frère. Il dit, non. Je lui dis, tu es sûr? Et j'ouvre la Bible devant lui, je lui montre 2 Corinthiens 5, 17. Vous êtes ambassadeur de Christ et vous faisiez fonction de etc. etc. Il dit, oui, mais bon. Je dis, mais c'est comme ça qu'on t'appelle. C'est ce que tu es. Et là, on sympathise et on commence à partager la parole de Dieu. Le deuxième volet que Jésus-Christ est venu faire sur terre, que nous devons comprendre, c'est de restaurer la justice et la sainteté de l'homme. Pourquoi? Parce que tout simplement, on ne peut pas expérimenter les bienfaits du royaume. On ne peut pas expérimenter tous les bienfaits qui sont contenus dans l'alliance avec Christ si nous ne sommes pas lavés de nos péchés. Si nous n'expérimentons pas la nouvelle naissance et si nous ne sommes pas sauvés par Christ. Amen. Romains 3, 23 nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Tant que, au travers de la nouvelle naissance, on n'est pas lavé de nos fautes, lavé de nos péchés, tout ce qu'on raconte ici n'est pas valable pour la personne concernée. C'est pour cela qu'on peut donner le message du royaume, on peut donner tout un tas de beaux messages, mais quand quelqu'un n'est pas sauvé, quand quelqu'un vit encore dans le péché, il faut simplement lui dire en toute humilité et en toute sincérité, frère, tu ne peux pas expérimenter ça. Ça ne sert à rien de se mentir. Quand Dieu parle de guérison, etc., etc., tu ne peux pas expérimenter ces choses-là. C'est pour cela que le péché est l'obstacle majeur, le plus grand obstacle à la grâce de Dieu dans la vie d'une personne. Toute personne qui est en communion avec le péché ne peut pas expérimenter Dieu. Amen. C'est important qu'on comprenne ça. Et c'est pour cela qu'il faut fuir le péché. Fuir le péché. Donc, quelle que soit la religion, quelle que soit la confession religieuse, que tu sois chrétien, que tu sois musulman, bouddhiste, animiste ou athée, si tu n'as pas expérimenté la nouvelle naissance en ayant confessé Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur et en croyant de ton cœur qu'il est ressuscité des morts, alors tu ne peux pas expérimenter le royaume. C'est pour cela que Paul nous dit, ni les débauchés, ni les homosexuels, ni les impudiques, etc., mériteront et n'entreront dans le royaume. Vous ne connaissez pas l'histoire du jeune Américain homosexuel qui a porté plainte contre les éditions Louis II ? Vous ne connaissez pas cette histoire, c'est sur Internet. Homosexuel, confirmé. Il lisait une Bible chez lui et il tombe sur ce passage dans le livre de Romains. Et il dit, je refuse ce passage où on dit que les homosexuels n'entreront pas dans le royaume. Et il va, il porte plainte contre Louis II. C'est sur Internet, hein. C'est sur Internet. Il dit, c'est pas Dieu qui a écrit ça, ce sont des hommes qui ont écrit ça. Parce qu'ils étaient contre les homosexuels. Mais Louis II a répondu devant le tribunal, mais monsieur, voyons, soyons raisonnables. Soyez raisonnable. Et il a perdu, évidemment, le procès. Il l'a perdu. Dans le même passage de Romains 3, 23, il nous est dit ceci. Dans la version parole vivante, un passage que j'aime beaucoup également. Il dit, il n'y a aucune différence entre les hommes. Tous, sans distinction, ont péché et ont perdu la beauté glorieuse dont Dieu avait revêtu l'homme. Tous ont manqué le but qu'il leur avait assigné dans son plan. Personne ne saurait prétendre être approuvé de Dieu ni accéder à sa glorieuse présence. Verset 24, c'est pourquoi Dieu offre à tous un don. Tous peuvent à présent être justifiés, c'est-à-dire déclarés justes aux yeux de Dieu par pure grâce. Ils reçoivent cette faveur comme un cadeau de la générosité divine. Et cela fut possible parce que Jésus-Christ a accompli tout ce qu'il fallait pour nous libérer, parce qu'il s'est donné lui-même en rançon pour nous. Amen. Ah oui. Et ça, c'est la base même, les fondements même de la doctrine chrétienne. Et l'une des raisons principales pour lesquelles les enfants de Dieu souffrent et n'expérimentent pas les bienfaits du royaume, c'est parce qu'ils n'ont pas compris ces choses-là. Ils n'ont pas compris ces choses-là. J'en parle parce que je vous assure, tous les jours, je rencontre des enfants de Dieu qui sont légers. Légers, qui ne marchent pas selon les promesses divines, qui ne marchent pas selon la parole, etc., etc. Et quand tu parles avec certains même, quand ils te parlent de leur péché, c'est comme si c'était normal. Complètement faux. À côté. Comment Jésus-Christ devait nous laver pour pouvoir venir rétablir en nous le tuteur royal? Eh bien, c'est simple, par son sang. La Bible nous dit dans Hébreux 9, 22, que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Hébreux 10, verset 19, « Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous, un passage que j'aime beaucoup, avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Amen. C'est pour cela que nous devons comprendre la puissance du sang de Jésus. Quand on comprend ça, aïe, oh là là. Quand on comprend ça, quand on parvient à la révélation de ces choses-là, oh, je vous assure, quand tu pries, hein, c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. Et Dieu veut que l'on comprenne ces choses. Ce sont des sujets que l'on appelle communément dans les cours bibliques la justification. Vous avez déjà entendu parler de ça? La justification. Et je peux vous assurer, j'ai fait le test. J'ai demandé à des enfants de Dieu de m'expliquer c'est quoi la justification dont la Bible parle tant, chapitre après chapitre, dans le livre de Romains. Et il y revient dans Colossiens, etc. La justification, c'est quand Christ nous a justifiés, mais encore. Explique. Il n'arrive pas à expliquer parce qu'il ne comprend pas. Et le diable ne voudra jamais qu'il comprenne ça. Et si lui, il ne fait pas l'effort de faire ses recherches et d'étudier la parole, il ne comprendra pas ça. Et sa vie chrétienne, sa relation avec Dieu sera sur des fondements fragiles. Et au moindre vent de doctrine, à la moindre difficulté, il vacille dans sa foi. Il vacille dans sa foi. Il y a encore quelques mois, il y a des gens qui venaient ici et qu'on ne voit plus. Et quand on les appelle, ils disent, oh, j'ai eu une difficulté. Tu as eu une difficulté. C'est pour ça que tu ne viens plus à l'église. Oui. Donc il fallait que je me retire un peu. Ah! Ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Un jour, il y a quelqu'un qui vient voir un pasteur et qui dit, « Pasteur, je vous demande vraiment de prier Dieu pour que je n'ai plus de difficultés ni de problèmes dans ma vie. » Ah bon? Tu veux que je demande ça à Dieu? Oui, pasteur. Demandez-lui que les difficultés s'arrêtent, s'il vous plaît. Vraiment, parce que je traverse difficulté après difficulté, problème après problème. Ok, mets-toi à genoux. La sœur se met à genoux. Il lui impose les mains, puis il dit, « Seigneur, au nom de Jésus, qu'elle meure tout de suite. » Qu'elle meure tout de suite. Elle dit, « Non, 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 pasteur, c'est pas ce que j'ai demandé. » Ah, si. Si vous ne voulez plus avoir de problème dans la vie, vous devez mourir, madame. Car la vie est faite que de problèmes. Amen. Oui. Et lorsque Christ nous lave, lorsque Christ nous sanctifie, peut venir maintenant la merveilleuse personne du Saint-Esprit. Le volet le plus important, le volet le plus important de notre relation avec Dieu, le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut dire avec moi le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est la personne la plus importante sur la terre. Le Saint-Esprit est la personne la plus importante dans notre vie de croyant. Le Saint-Esprit est celui qui nous permet d'être en relation avec Dieu. Le Saint-Esprit symbolise notre réconciliation avec Dieu. Le Saint-Esprit est celui qui nous permet d'être en communion avec Dieu. Le Saint-Esprit est une personne extraordinaire qu'il faut connaître. Le Saint-Esprit est la personne la plus douce qui puisse exister. Le Saint-Esprit est la personne la plus sage que l'on puisse connaître, le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut dire avec moi le Saint-Esprit? Mais qui pourtant est la personne la moins comprise et la moins recherchée dans l'Église. On ne cesse de le dire, les enfants de Dieu ne cessent de l'entendre, mais pourtant ils ne font pas l'effort de le connaître. Dieu, le Père, n'a jamais bougé de son trône, il est resté au ciel. Le Fils est venu sur terre et y a passé 33 ans. Le Saint-Esprit est celui qui est revenu, que Adam avait perdu en Éden après avoir péché, et il est revenu, il revient habiter dans nos cœurs lorsque nous donnons nos vies à Jésus, le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut dire avec moi le Saint-Esprit? Lorsque Adam a péché, lorsque Adam a trahi, lorsque Adam s'est rebellé en désobéissant à Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu ne le comprennent pas, mais la plus grande perte qu'Adam a connue, c'est le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui lui permettait d'être en connexion permanente avec Dieu, avec le ciel. Et il a perdu cette présence-là, cette grâce-là qui l'accompagnait en permanence et qui lui permettait de pouvoir exercer son autorité sur la terre. Et quand on étudie la parole, on se rend compte que le point final, le point le plus absolu, le plus important de la mission de Jésus, c'était de nous redonner le Saint-Esprit. C'est pour cela que Jésus-Christ dit aux apôtres, dans le dernier chapitre du livre de Jean et dans le premier livre des Actes, « Ne bougez pas d'ici, car vous recevrez une puissance venant d'en haut. » C'est seulement quand vous recevrez cette puissance-là que vous pourrez aller et faire maintenant ce que je vous ai commandé de faire. Et c'est pour cela qu'en tant qu'enfant de Dieu, dans la saison de la conquête des promesses, lorsque tu veux maintenant, lorsque tu sors d'ici et que tu vas dans le monde pour prendre possession de ce qui t'appartient en Christ, pour expérimenter les bienfaits du royaume en Christ, il faut que tu saches qui est le Saint-Esprit en toi et avec toi. Amen. Il faut que tu le saches. Il faut connaître le Saint-Esprit. Quand on cherche à connaître le Saint-Esprit, quand on l'étudie, quand on médite sa présence, quand on passe du temps avec lui, il se révèle à nous. Hier, je parlais avec une sœur au téléphone et elle me pose une question. Elle me dit, « Pasteur, comment faire pour entendre le Saint-Esprit? Parce que je veux entendre le Saint-Esprit pour ma vie, mais je ne sais pas comment entendre le Saint-Esprit. » Et là, je commence à l'exhorter. Je lui dis, il y a différentes manières de l'entendre. Car la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais laisse-moi te dire, sœur, que le meilleur moyen d'entendre le Saint-Esprit dans ta vie, c'est de cultiver une intimité profonde avec lui. Car c'est dans l'intimité qu'on apprend à connaître quelqu'un. C'est dans l'intimité que la personne se révèle à nous. C'est dans l'intimité que l'on apprend à comprendre comment il pense, que l'on apprend à entendre les battements de son cœur, que l'on apprend à comprendre ses sentiments, les sentiments qu'il a pour lui, les sentiments qu'il a pour ce monde. C'est quand on cultive l'intimité avec lui. Amen. Donc c'est ce qu'Adam avait perdu et c'est ce que Christ vient nous redonner. Pourquoi? Parce que Christ Savez que sans le Saint-Esprit, on ne peut pas expérimenter le royaume. On ne peut pas expérimenter les bienfaits du royaume. Amen. Juste pour donner une image. Lorsque deux pays sont en conflit, la première chose que les dirigeants de ces pays font, c'est de rappeler leurs ambassadeurs, n'est-ce pas? C'est de rappeler leurs ambassadeurs, qui, dans le pays en question, représentent l'État avec qui ils sont en collaboration. Et la première chose que le dirigeant fait lorsqu'il est en conflit avec un pays, c'est de rappeler ses ambassadeurs. Adam, ayant péché, désobéi, s'étant rebellé et trahi, Dieu, ce qu'il fait, il rappelle celui qui est le représentant de l'État qu'on appelle le royaume des cieux sur la terre, il rappelle le Saint-Esprit. Ça aussi, c'est tout un enseignement. Et le jour où le Saint-Esprit est parti, le jour où cette présence a quitté la terre, plus aucun être humain ne pouvait expérimenter cette présence. Le Saint-Esprit pouvait venir de manière ponctuelle, oindre les rois, comme on le voit dans l'Ancien Testament, mais il ne pouvait pas habiter dans l'homme. Le Saint-Esprit est revenu sur terre en la personne de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ dit, lorsque je m'en vais, maintenant je m'en vais au Père, et vous pourrez faire de plus grandes œuvres que moi. Pourquoi? Parce que maintenant, par le Saint-Esprit, je pourrai maintenant habiter en chacun d'entre vous. Amen. Voici le miracle, le plus grand miracle que Jésus-Christ a pu accomplir. Et aujourd'hui, lorsque nous sommes en Christ, nous avons le Saint-Esprit en nous. Et par le Saint-Esprit en nous, nous pouvons expérimenter et connaître et opérer à la dimension à laquelle nous pouvons opérer. Amen. La Bible nous dit dans le premier livre de Jean, chapitre 3, au verset 8, que le Fils de Dieu apparut pour détruire les œuvres du diable. Et 1 Pierre 2, 9 nous dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Lorsque le Saint-Esprit vient en nous, lorsque le Saint-Esprit vient habiter en nous, la première chose qu'il nous fait comprendre, c'est qui nous sommes. Et la première chose qu'il commence à nous enseigner, c'est comment exercer notre autorité en tant que roi et en tant qu'enfant de Dieu sur la terre. Pourquoi? Parce que le diable travaille. Et lorsque la Bible dit ici que le Fils de Dieu a apparu pour détruire les œuvres du diable, elle ne parle pas seulement de Jésus. Elle parle aussi de toi et de moi. Amen. Elle parle aussi de toi et de moi. Et telle est la manière dont nous devons vivre ici-bas. Le Saint-Esprit nous recrée en Christ, dit la parole. Il nous ramène à la vie. Il nous redonne la vie. Il fait de nous des esprits vivifiants. Et il nous permet de pouvoir, avoir cette identité-là que Christ nous a donnée lorsqu'il dit « Vous êtes la lumière du monde ». Vous êtes la lumière du monde. La Bible ne nous appelle pas chrétiens. La Bible ne nous appelle pas religieux ou autre. Elle ne nous place pas dans une confession quelconque. Elle dit que nous sommes la lumière du monde. Vous, l'Église, vous êtes la lumière du monde. Tu es une lumière. Christ dit, lorsque tu te regardes dans un miroir, vois une lumière, quelqu'un qui brille. La lumière n'a pas besoin de prier pour briller. Ne prie jamais pour demander à Dieu de briller. Brille, c'est tout. Quel que soit le domaine dans lequel tu es, brille. Excelle. Manifeste les dons et les talents que Dieu a déposés en toi. Libère le potentiel. C'est ce que nous allons voir le 5 avril. Ne ratez pas cette conférence parce que ça va être vraiment extraordinaire. Parce que c'est une thématique, je vous assure, à laquelle Dieu nous a beaucoup enseigné. Et c'est pour cela qu'on prend le temps d'abord d'enseigner ces choses-là. Parce que ces paroles-là nous emmènent à des sujets comme celui que l'on va voir au séminaire. Et quand on parle du potentiel, quand on étudie le principe du potentiel dans la Bible, on se rend compte que c'est un principe non seulement qui est très présent dans le livre de la création de Genèse, mais on se rend compte aussi que Jésus-Christ en parlait souvent. Il en parlait souvent. Lorsque Jésus-Christ dit, le royaume de Dieu est semblable à ceci, le royaume de Dieu est semblable à cela. Le royaume de Dieu est semblable à un homme qui cherchait une perle dans un champ. Il chercha une perle dans un champ. Et lorsqu'il l'eut trouvée, la perle dans le champ, l'homme alla et vendit tout ce qu'il possédait pour acheter le champ. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que celui qui a des oreilles pour comprendre, comprenne. Sauf que là, il n'y a pas beaucoup de gens qui avaient compris. Mais là, Jésus-Christ est en train de nous parler d'un principe que j'appelle le principe du potentiel. Le champ, quand on va chercher en profondeur, de quoi parle-t-il lorsqu'il parle du champ et que l'on rentre dans le premier livre de Corinthiens au chapitre 3, la Bible nous dit dans le chapitre 3 que nous sommes le champ de Dieu. La perle, c'est ce précieux trésor que Dieu a déposé en chacun d'entre nous. Que Christ dit, tout ce que tu as, tout ce qui a de la valeur à tes yeux, vends-le pour pouvoir acquérir le précieux trésor que j'ai déposé en toi et pour pouvoir libérer ce potentiel que j'ai mis déposé en toi. Car la clé du bonheur, la clé de la réussite dans notre vie aujourd'hui, c'est le potentiel que Dieu a déposé en nous. Je vous assure, le jour où j'ai compris ça, ma vie a totalement été changée. Le jour où j'ai compris ce principe, car c'est l'un des premiers principes que Dieu m'a amené à comprendre lorsque j'ai commencé à lire la parole, le jour où j'ai compris ce principe, je n'ai plus eu peur, je n'ai plus douté de l'avenir. Maintenant, j'ai pour habitude de prononcer un mot haut et fort, tout est possible à celui qui croit, c'est possible. Donc, quand on dit crise économique, quand on dit malheur, quand on dit futur incertain, quand on dit le Gabon, on ne peut pas y arriver, quand on dit ceci et cela, je dis, où que vous me mettiez, je libère mon potentiel et je prospère à tous égards, comme prospère l'état de mon âme. Amen. Et ça, on va rentrer en profondeur là-dessus le 5 avril. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit est la personne la plus importante et il faut le connaître. Il faut le connaître. Est-ce qu'on peut répéter juste ces quelques mots avec moi, juste à haute voix ensemble? Je suis une nouvelle création en Christ.
Je suis une nouvelle création.
Le Saint-Esprit habite en moi.
Le Saint-Esprit habite en moi.
Il me remplit.
Il me remplit.
Et manifeste le royaume de Dieu au travers de moi. Sois toujours sûr de ça. Sois toujours rempli d'assurance quand tu prononces ces paroles-là. Pour finir, on va atterrir, pour finir, juste trois points qui symbolisent le retour du Saint-Esprit en nous, en l'homme, quand on est de nouveau. Trois choses qui se passent, trois choses qui symbolisent le retour du Saint-Esprit. La première chose quand le Saint-Esprit vient dans nos vies, la première chose qui symbolise le retour du Saint-Esprit dans nos vies, c'est ce que j'appelle la restauration de notre relation avec notre Père Céleste. La première chose que le Saint-Esprit fait lorsqu'il vient en nous, lorsque nous naissons de nouveau, lorsque nous nous réconcilions avec Dieu, c'est que nous pouvons à nouveau être connectés, être en communion avec le Père Céleste. Père en hébreu et en grec, plutôt en grec, Père en grec, quand Jésus-Christ dit Père, dans la Bible, c'est le mot grec que l'on prononce Abba. Abba, quand on va chercher la signification du mot Abba, ça veut simplement dire la source de toute chose. C'est ça que ça veut dire. On est maintenant semblable à des appareils qui étaient débranchés, que l'on rebranche à une prise de courant et qui recommencent à fonctionner normalement. Ni plus, ni moins. Et lorsque nous nous reconnectons au Père, tout ce que Paul appelle les fruits de l'Esprit, nous n'avons plus besoin de prier pour cela, nous avons juste à les manifester parce qu'ils sont en nous, car les fruits de l'Esprit, le Saint-Esprit qui demeure en nous, nous amène à manifester tout cela. Amen. Ces fruits de l'Esprit, il en parle, Galates 5, 22, passage que l'on connaît tous. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, toutes ces choses. Paul dit, vous n'avez pas besoin de prier pour ça. Le Saint-Esprit en vous vous amène à les manifester. Tout ce que tu as à faire, c'est manifester. Tu n'as pas besoin de prier pour l'amour. Seigneur, donne-moi plus d'amour, donne-moi plus d'amour. C'est une prière que Jésus-Christ n'a jamais dit qu'il faut faire. Il dit, aimez-vous les uns les autres. C'est tout. Aimez-vous, impératif. Les fruits de l'Esprit. La deuxième chose que le Saint-Esprit symbolise, c'est la restauration de nos droits légitimes. Tout enfant, fils de son père, a des droits légitimes sur ce qui appartient à son père. Il y a accès. Il y a accès. Et aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils, lorsque l'on parle d'héritage, lorsque la Bible nous parle de promesses, de l'alliance, etc., il faut se tenir debout et dire, en tant que fils, Seigneur, spirituellement, j'entre et je prends possession de ce qui m'appartient. Lorsque la Bible dit que dans l'alliance que nous avons en Christ, nous sommes guéris, car par ces meurtrissures nous sommes guéris, c'est une promesse que Christ a accomplie, alors je suis guéri. Amen. C'est un fait établi. Et Christ dit, tu as juste à le manifester et à le vivre. Nous sommes fils. Et en tant que fils, nous sommes privilégiés. Et parce que nous avons le Saint-Esprit en nous, la personne la plus importante que nous puissions connaître, alors tout est possible. Et enfin, le dernier point, le Saint-Esprit en nous symbolise simplement notre autorité. Symbolise simplement notre autorité. La restauration de notre autorité. Et ça, c'est un sujet qui est vaste. C'est un sujet qui, par la grâce de Dieu, je crois, nous allons toucher le moment venu. Tout enfant de Dieu qui ne connaît pas son autorité est semblable à un policier en plein milieu de la route qui fait stop aux voitures et les voitures passent, les voitures ne s'arrêtent pas quand il fait stop. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est un policier en civil. Personne ne le reconnaît. Personne ne le reconnaît. Quand il lève la main, stop, les gens disent, toi, tu es qui ? On passe. Mais lorsqu'il va sur le côté et il revêt la tenue bleue et il revient avec écrit ici PNL, Police Nationale de Libreville, et qu'il lève la main, qui que tu sois, tu t'arrêtes. Je vous assure. Je sais de quoi je parle parce que avant-hier, pas loin d'ici, je roulais en voiture. Ça m'a fait rire parce que je vois un policier de loin qui lève le doigt et qui me siffle. Quand il me siffle, il me pointe. Donc moi, je vais dire, oh, il doit pointer quelqu'un d'autre. Il voit que je ne m'arrête pas. Vous savez ce qu'il fait? Il vient, on vous a déjà tous fait ça, il vient, il se met en plein milieu de la route et il s'arrête comme ça, il me pointe. En plein milieu de la route, qu'est-ce que je fais? Je continue ou je m'arrête? Pourquoi il se met en plein milieu de la route alors qu'il sait que je peux l'écraser? Il fait ça parce qu'il sait que je vais m'arrêter. Parce qu'il a l'autorité. Amen. Et cette autorité lui confère le droit de me pointer du doigt et de me dire, mets-toi sur le côté, qui que tu sois. Il arrive, monsieur, police nationale, contrôle, sortez vos papiers, s'il vous plaît. Non, il dit même pas s'il vous plaît, sortez vos papiers. Et après, il me dit, vous n'avez pas vu que je vous ai demandé de vous arrêter depuis un certain temps déjà, pourquoi vous continuez? Je dis, oh, je croyais que, ouais, c'est ça, ouais, je croyais que... Et là, avec l'autorité qu'il a, il commence à me réprimander. Et je ne peux pas parler parce qu'il a l'autorité, parce qu'il a le manteau qu'il faut. Et le Saint-Esprit, lorsqu'il vient dans ta vie, il te revêt de ce manteau. Et c'est ce manteau-là qui te permet de te tenir debout devant les circonstances et de dire, c'est possible. Au nom de Jésus-Christ, je prends possession de mon héritage, je prends possession de ce qui m'appartient, je règne dans cette vie, je réussis à tous égards, je prospère à tous égards, mon futur est radieux, je déclare qu'en Christ, je réussirai, je n'échouerai pas, en Christ, je brillerai et je serai heureux sur la terre. Mes enfants seront heureux, épanouis parce que je suis en alliance avec Christ. La mort ne viendra jamais frapper à ma porte parce que je suis en Christ. N'ayez jamais peur de la mort. N'ayez pas peur de la mort. Même la mort a un but dans la Bible. N'ayez pas peur de ces choses-là. Parce que le jour où on partira le jour où on aura accompli notre mission et Dieu aura permis maintenant qu'il est temps maintenant qu'on parte se reposer de nos œuvres. Mais n'ayez pas peur de ça. N'ayez pas peur des choses, on en parle tellement ici, des choses occultes, de la sorcellerie, de ces choses-là, des maladies. On dit qu'en ce moment, le cancer et le sida sévissent dans Libreville, ça tue énormément de monde. Toi, sois serein, parce que tu sais qu'à cause de l'alliance que tu as en Christ avec le Père, et à cause du Saint-Esprit en toi, ces choses-là ne pourront pas t'atteindre, car Dieu te garde. Et le jour où David a compris cela, il a dit, l'ange de l'Éternel campe autour de moi et m'arrache à tout danger. Amen. Gloire à Dieu. On va incliner la tête pour finir. Et cette autorité qu'il nous a donnée, ma prière, c'est qu'on en soit conscient. Qu'on soit conscient de ce que Christ a accompli à la croix et qu'on soit conscient de notre identité en Christ. Il dit dans le livre de Luc, chapitre 10, au verset 19, « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. » Et la pire chose qui pourrait nous arriver, c'est de ne pas comprendre cela, de ne pas comprendre ces choses. Et le Saint-Esprit, en nous, en toi et en moi, c'est la faveur de Dieu, c'est la grâce de Dieu, c'est la protection de Dieu qui t'est garantie, c'est la distinction, ou encore la puissance le pouvoir, l'autorité, tout ce qu'il peut représenter aujourd'hui, tu l'as. Tu l'as en Christ, par le Saint-Esprit. Seigneur, merci. À toi soit toute la gloire et la louange, Père. À toi soit l'honneur et la magnificence. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu es, Père. Sois exalté, sois honoré, sois magnifié. Nous chantons des louanges et nous faisons monter vers toi des cantiques nouveaux, Père de grâce. Merci encore pour la révélation de la révélation de ta connaissance, Père. Merci pour la révélation de ta parole, Seigneur. Merci pour le sacrifice que Christ a opéré à la croix. Merci pour sa résurrection. Car depuis qu'il est ressuscité, tu dis que nous sommes ressuscités avec lui. Et aujourd'hui, en ce moment même, nous sommes assis à la droite de Dieu avec lui, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Père, parce que depuis cette position que nous avons en Christ, aujourd'hui, nous pouvons rayonner et briller dans la vie. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les événements, Seigneur, merci parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu nous accordes la grâce de ne plus, Seigneur, fonctionner en fonction de notre condition ou encore en fonction des circonstances qui peuvent nous entourer, mais en fonction, Seigneur, de notre position, celle que nous avons en Christ. Merci, Seigneur, pour le sacrifice de Christ. Merci pour le sang qu'il a versé. Merci pour ce sang précieux qui nous unit à toi et qui nous donne accès, Seigneur, à tous les bienfaits du royaume. Car tu dis, sois dans le repos, ne crains, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Seigneur, merci pour le royaume. Merci parce que tu nous accordes la grâce d'expérimenter tous les bienfaits du royaume. Même lorsque c'est difficile, accorde-nous simplement la grâce de comprendre les clés dont nous avons besoin pour pouvoir expérimenter les bienfaits du royaume. Merci, Seigneur, pour la révélation de ta parole. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour la merveilleuse personne du Saint-Esprit. Merci pour Dieu le Saint-Esprit. Merci pour le tout Saint-Esprit. Cette merveilleuse personne qui nous amène à comprendre qui nous sommes en Christ et qui nous amène, Seigneur, à rééduquer notre système de pensée et à commencer à penser comme toi tu penses. Seigneur, merci pour le Saint-Esprit. Accorde-nous la grâce de cultiver son intimité, de cultiver sa présence, de développer, Seigneur, notre relation avec lui, de marcher avec lui. Car la clé de la réussite dans la vie, la clé du bonheur, Seigneur, c'est d'être en communion permanente avec le Saint-Esprit, de marcher avec lui, d'évoluer avec lui, de progresser avec lui et de l'écouter, Seigneur. Lorsque nous ne pouvons plus l'entendre, nous sommes en danger. Alors nous te rendons grâce de ce que nous entendons, Seigneur, ta voix par le Saint-Esprit, Seigneur. Car tu dis dans ta parole, Père de grâce, qu'il est celui qui pousse des soupirs inexprimables vers le trône pour nous. Alors merci pour tous les soupirs que le Saint-Esprit pousse, Seigneur, vers toi pour nous. Merci, Père. À toi soit la louange et à toi soit toute l'adoration. Merci, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Sois exalté, sois honoré, sois magnifié, sois glorifié, Père, au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Est-ce qu'on peut se lever simplement et acclamer le Seigneur? Sois exalté, Père. Béni sois-tu, Seigneur, tout ce que tu es. Magnifique est ton nom. Magnifique est tu, Père. Magnifique est tu, Seigneur. Sois exalté, Père. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous te rendons grâce. Dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, merci pour ta grâce. Dans le nom de Jésus-Christ, merci pour ta paix, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, merci, Seigneur. À toi soit toute la gloire, dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen.
Nous espérons que vous avez été richement édifiés par cet enseignement. Pour plus d'informations au sujet de l'église La Maison du Bâtisseur, vous pouvez vous rendre sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Si vous désirez avoir d'autres produits enregistrés à La Maison du Bâtisseur, vous pouvez soit commander directement en ligne ou téléphoner nous au 04 65 60 56 ou envoyez-nous votre demande par email à l'adresse suivante contact@lamaisondubâtisseur.com. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.